Donc je te pose la question, si ça va, tu peux me le dire. Si ça va pas, ne le dis pas. Est-ce que parfois on est un peu embêté de répondre à quelqu'un quand il nous demande comment ça va? Parce qu'en fait, on se dit, mais si je lui dis que ça va, alors que réellement ça ne va pas dans ma vie, c'est pas juste. Mais si je lui dis que ça va pas, j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Et donc, ça ne va pas non plus. Je pense qu'il faut vraiment apprendre à être simple. Tu peux le remettre en arrière, parce qu'il me semble que... Non, avant. Ah mince, tant pis, c'est de ma faute, Eric. En fait, j'aurais voulu que vous voyiez juste être reconfiguré, parce que la définition du dictionnaire dit c'est une modification de la configuration d'un appareil, d'un avion, d'un ordinateur, etc., d'un système pour l'adapter à de nouvelles conditions de fonctionnement ou d'utilisation. Évidemment, nous ne sommes pas des appareils. Nous sommes des êtres humains. Mais je n'ai pas trouvé un mot qui pouvait dire de la même chose ou être aussi clair que être reconfiguré. Donc, vous ne m'en voudrez pas, c'est très clair, je ne vous prends pas pour des machines, ni moi-même, puisque j'ai aussi besoin d'être reconfiguré, vous verrez durant le message, mais vraiment de savoir que être reconfiguré, être transformé, c'est plutôt pour moi ce que Dieu veut faire, c'est retrouver notre configuration créationnelle. Dieu veut revenir à la base de comment il nous a créés. C'est l'autre? Merci, monsieur. Donc, on peut dire, grosso modo, que la définition du dictionnaire, c'est donner une nouvelle configuration. La définition de Dieu, c'est nous redonner ce que nous étions à l'origine. Je ne sais pas si vous comprenez, mais ça n'a pas le même sens. Ce n'est pas juste nous donner une nouvelle configuration. En fait, ce serait une nouvelle configuration par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui. Mais pour Dieu, ce ne sera pas une nouvelle configuration. Il va nous ramener dans ce que lui avait prévu à la base, nous concernant. Ça, c'est le dessein de Dieu pour nos vies. Une fois qu'il nous a attirés, son désir, c'est de faire ça. Tu peux mettre la prochaine diapositive. Le plan originel de Dieu pour nous. Genèse, au chapitre 1, au verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alors, je peux m'arrêter et vous laisser réfléchir à ça toute la matinée. Le plan de Dieu, c'est quand il nous a créés, il nous a fait à son image. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Nous sommes faits à l'image de Dieu. Dieu est parfait, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et je pense que maintenant vous me connaissez un peu, j'aime bien m'appuyer sur l'écriture parce qu'autrement, ce que je peux dire, ce que je peux penser, parfois ça n'a pas trop d'importance. Par contre, ce que Dieu dit, ça a de l'importance parce que c'est la vérité. Donc, je vais quand même continuer pour dire que comme nous sommes créés à l'image de Dieu, ce que Dieu avait décidé à la base, il veut nous y ramener pour que nous soyons tels qu'il avait voulu que nous soyons, c'est-à-dire parfaits. Et là, vous allez me dire, parce qu'on l'a entendu, on ne sera jamais parfait sur cette terre. Mais ça, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de savoir que Dieu nous rend parfaits. Pas par nos propres forces, parce que... Mais Dieu nous rend parfaits. Parce qu'il nous a créés à son image. Ce n'est pas parce que nous le méritons, ce n'est pas parce que nous faisons des efforts, ce n'est pas parce que... C'est parce que Dieu nous a créés comme ça. Tu peux mettre la prochaine? Merci. Non, c'est le... Notre esprit humain renferme nos croyances profondes. Ces croyances peuvent concerner nous-mêmes, Dieu et les autres personnes. Et là, c'est important de savoir, mais qu'est-ce que je crois ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous arrêter dans la vie, de prendre du temps et de vous poser des questions de ce type-là ? Qu'est-ce que je pense de moi ? Qu'est-ce que je pense de Dieu ? Et une fois que vous avez écrit peut-être tout ce que vous pensiez de vous, ou tout ce que vous pensiez de Dieu, d'aller de lire dans la parole de Dieu et d'être confronté à des choses qui sont contraires à celles que vous aviez marquées. Ou par rapport à vous-même. Est-ce que vous n'avez pas parfois tendance à croire des choses et puis quand les autres vous disent quelque chose, vous dites « ça ne colle pas avec ce que je pense de moi ». Vous êtes déjà arrivé ou pas ? Oui, ça nous est déjà arrivé. Et pourquoi Dieu désire-t-il que ce que nous pensons soit avec sa vérité et sa réalité ? C'est parce que ça, c'est bon pour nous. Et ça, c'est la vérité de Dieu. Qui pense parmi nous que Dieu punit ? Dieu nous châtie, mais est-ce que Dieu nous punit ? T'as pas bien fait ça, tu vas au coin. Non, mais ça vaut la peine de se poser ce genre de questions parce qu'on peut en rire, mais foncièrement, au milieu de nous, il y a peut-être des gens qui sont mal à l'aise avec ça parce qu'ils croient ça. Et dans nos églises, il y a des gens qui croient ça. Je ne vais pas faire ça parce qu'autrement Dieu va me punir. En fait, tout ce que nous pouvons faire, Dieu ne va pas nous punir. Nous allons subir les conséquences de nos actes. Ce n'est pas Dieu qui va nous punir. Dieu a souvent mis en garde son peuple en disant « Si vous faites ça, il va vous arriver ça. » Et nous, on traduit donc « Dieu punit ». Ben non. Et ça, c'est une mauvaise conception de qui est Dieu. Dieu n'est pas un Dieu qui punit. Dieu n'est pas un Père qui punit. Dieu nous reprend. Dieu nous corrige. Ça, c'est vrai. Mais Dieu ne nous punit pas. Et puis, ce sera en contradiction avec ce que dit la parole de Dieu, quand même. Alors, on pourrait dire, Dieu est amour, mais Dieu pourrait quand même punir. Parce que dans notre fonctionnement, on pense qu'on peut aimer et qu'on peut punir. Mais Dieu corrige, Dieu reprend, oui, mais Dieu ne punit pas. D'où l'importance de s'imprégner de la parole de Dieu. Je ne vais pas aller trop vite. En fait, notre configuration dépendra en grande partie de notre relation avec Dieu. Plus nous connaîtrons Dieu, plus nous aurons la crainte de Dieu, mais pas la peur de Dieu. Et plus nous allons pouvoir vivre les réalités de qui est Dieu, de pouvoir nous laisser porter par Dieu, embrasser par Dieu, aimer par Dieu. Dieu nous aime. Dieu vous aime. Personnellement. Dieu t'aime personnellement. Est-ce que dans votre manière de penser, vous croyez que Dieu ne vous aime pas? Je peux vous dire, c'est pas la vérité. Et on pourrait avoir une discussion où vous allez être sûr que Dieu ne vous aime pas parce que. Non, Dieu t'aime. Point barre. Tu n'as rien à devoir faire pour être aimé par Dieu. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, Dieu les aime. Les vérités, les réalités de Dieu. Donc à la lumière de la parole de Dieu, nous voyons que ses pensées ont été défigurées durant ce passage sur la terre. Car elles ne sont pas en accord avec qui est Dieu et elles ne sont souvent pas en accord avec ce que dit la parole de Dieu. L'intention de Dieu est que ses croyances profondes soient toujours en accord avec sa vérité. Et nous pouvons appeler ces croyances profondes croyances fondamentales, car elles sont centrales pour notre vie. Exemple d'une croyance fondamentale, c'est bon d'être moi. C'est bon d'être qui je suis. Est-ce que vous vous êtes déjà dit ça? C'est bon d'être moi. C'est bon d'être qui je suis. Ou alors, vous vous voyez tellement différemment de ce que Dieu vous voit. Et donc, vous n'êtes pas à l'aise. Et donc, vous êtes dans la culpabilité. Vous êtes sous un poids, sous une chape. Dieu nous a créés à son image. Nous devons changer notre manière de penser. Maintenant, on ne peut pas dire « je suis aimable » si réellement dans ma vie je ne le suis pas. Là on est dans du mensonge, on n'est pas dans la vérité. Mais je suis content d'être qui je suis. Mais je sais que je dois encore travailler, que je dois encore laisser le Seigneur transformer ma vie parce que je ne suis pas comme lui voudrait que je sois. Mais je suis quand même content de qui je suis. Je suis heureux de savoir qui je suis parce que Dieu m'aime. Nos croyances finissent par nous donner une mentalité. Nos mentalités déterminent nos choix. Un humoriste belge dit dans un de ses sketchs, « On devient ce qu'on mange. » Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce sketch. Et derrière ça, il dit à la personne qui est avec lui, « Mange ta saucisse. » En fait, moi, ce que je voudrais plutôt dire, c'est on devient ce que l'on pense. Parce que souvent, nous agissons en fonction de ce que nous pensons. Notre mentalité détermine notre vie. Et quelle est ta mentalité? Regardez le monde autour de vous. Est-ce que le monde va bien? Est-ce que ça se passe bien? Non. Non. Je suis d'accord avec vous. Non. Par contre, quelle est ta mentalité? Parce que si ça va mal autour de toi, petit A, tu dis « tout va mal dans ce monde et ça ne vaut pas la peine de vivre » ou tu dis « tout va mal dans ce monde, mais je désire être un instrument entre les mains de Dieu » pour être une bénédiction pour ce monde. Ça ne change pas, ça va mal dans le monde. Mais comment est-ce que je vais agir et comment est-ce que je vais réagir par rapport à qui je suis? Donc, notre mentalité nous forme, nous déforme, et Dieu veut nous transformer. Nous avons, pour la plupart d'entre nous, vécu loin de Dieu durant une période plus ou moins longue de notre vie. Et l'apôtre Paul en parle dans Éphésiens 2, si tu peux mettre. Éphésiens 2, de 1 à 2. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous étiez morts. Est-ce que c'est du présent ? Non. C'est du passé. Pourquoi l'apôtre Paul dit « vous étiez morts » ? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes vivants. Vous êtes vivants en Jésus-Christ. Oui, mais je n'ai pas l'impression. Lisez la parole de Dieu, mais simplement. L'apôtre Paul dit « vous étiez morts ». Aujourd'hui, vous êtes vivants. Selon le train de ce monde. Tu peux mettre l'autre. Dans quel train étions-nous ? Dans celui-là ou dans celui d'après ? Nous étions dans ce train, dans le train où on faisait tout et n'importe quoi. Mais gloire à Dieu, nous avons rencontré Jésus, ou plutôt Jésus est venu nous rencontrer. Et ça a changé nos vies. Et comment pouvons-nous sortir de ce contexte ? Vous savez, il n'y a pas 36 solutions. L'être humain aime bien essayer de se trouver des manières de faire. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, il n'y a qu'une seule solution. C'est en faisant nôtre la parole de Dieu. Il est écrit dans Ésaïe 55:10 « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. » Tu peux mettre celle d'après. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. » Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Pourquoi avons-nous besoin de faire nôtre la parole de Dieu ? Parce que la parole de Dieu va produire en nous quelque chose de nouveau. Ça va nous transformer. Ça va nous modeler. Voyez les racines, ce sont les racines d'un grand arbre, de cet arbre-là. Au plus grand est l'arbre, au plus profond ses racines pénètrent dans la terre, de manière générale, parce qu'il y a des exceptions. Il y a des arbres qui n'ont pas besoin d'avoir des racines qui vont aller profondément dans la terre. Et quand je dis elles n'ont pas besoin, en fait, ces arbres-là risquent, quand il y a des tempêtes, de tomber. Et il y a par exemple l'érable du Japon ou les platanes. Cet arbre peut atteindre plus de 80 mètres de haut. Donc, il vaut mieux quand même qu'il ait de bonnes racines. Et il en est de même pour chacun d'entre nous, si nous voulons être des hommes et des femmes de Dieu, remplis de qui est Dieu, d'aller chercher dans la parole de Dieu et d'aller puiser dans les profondeurs de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu va nous transformer, elle va nous modeler. Et elle va nous ramener dans les réalités de Dieu. Tu es créé à l'image de Dieu. Et c'est là que Dieu veut te ramener. Alors, vous voyez, cet homme-là, il est dans les fondations et on ne le voit presque plus. Au plus profond, vous aurez des racines ou des fondations. Au plus grand pourra être l'édifice que Dieu veut créer dans nos vies. Alors, on n'est pas là dans « je vais être un grand homme de Dieu » ou « une grande femme de Dieu » et « je vais m'enorgueillir ». Ce n'est pas ça du tout. On n'est pas dans ce contexte-là. Mais on est dans cette réalité de chercher, de puiser dans la parole de Dieu afin d'être à l'image de ce que Dieu veut faire. Et puis, dans Genèse, au chapitre 1, verset 31, il est écrit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, donc après avoir créé l'être humain, et voici, c'était très bon. » Est-ce que tu penses parfois que Dieu te regarde en disant « C'est pas possible. » Est-ce que vous pensez ça? Est-ce que vous ne pensez pas que plutôt Dieu est comme un père, et là je vais pas, ça va parler aux jeunes parents, qui entre dans la chambre de l'enfant pendant qu'il dort, et alors que l'enfant a fait des cris, des hurlements, il a fait dans sa couche, il a fait beaucoup de choses durant la journée qui auraient pu l'agacer. Et en fait, le regard du père ou de la mère, quand il regarde son enfant dans le lit, il se tait. Et il l'aime. Dieu est comme ça. Quelle mauvaise image nous avons de Dieu. Est-ce que nous n'avons pas besoin réellement d'être reconfigurés, de retrouver ce que Dieu avait prévu au départ pour nous. Parce qu'on va voir les choses tellement différemment. D'où Matthieu 7, 24 à 26. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Quand tu es fondé dans la parole de Dieu, si demain quelqu'un te dit, j'ose pas utiliser les mots parce que c'est pas dans mon vocabulaire d'habitude, donc mais tu dis des choses te concernant qui sont terribles, ou tu es abattu parce qu'en fait tu n'as pas mis la parole de Dieu en pratique dans ta vie, ou alors c'est comme l'eau sur les plumes des canards, ça glisse parce que tu te sens pas du tout concerné par ça, parce que tu connais ton identité en Jésus-Christ. Et tu sais que cette identité, c'est la vraie identité. Mais je pense qu'on a besoin d'y travailler. On a besoin de comprendre. Et en fait, parfois, dans notre vie chrétienne, on rame. Mais on rame parfois parce que tout simplement, on n'a pas compris ou parce qu'on n'a pas mis en pratique. Quand on n'a pas compris, c'est un peu embêtant, mais on a besoin de comprendre, on a peut-être besoin de s'entourer de personnes qui vont nous aider à comprendre. Par contre, quand on a compris et qu'on ne met pas en pratique, c'est dommage. Parce qu'en fait, c'est nous qui vivons ça. C'est nous qui n'allons pas bien vivre ces situations. Alors que Dieu, ce qu'il a prévu, c'est tellement bon. Tellement bon. Si nos fondations sont solides et profondes, nous pourrons construire une vie saine et solide en Dieu. Tu peux mettre la diapo. Il y a un Boris Cyrulnik qui a dit « Les premières relations et expériences de notre vie ont le plus grand impact dans nos croyances fondamentales. » C'est un homme qui était psychiatre ou pédopsychiatre. En fait, les 1000 premiers jours de la vie d'un enfant vont le déterminer. Maintenant, Jean-Luc, ce que tu dis là, ça n'a pas de sens. L'enfant, il va grandir, il va... Les 1000 premiers jours, et des études ont été faites, vont déterminer la vie de l'enfant. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas pouvoir évoluer, qu'il ne va pas pouvoir changer, parce que le jour où on rencontre Jésus, normalement, Dieu va commencer à faire le nettoyage dans nos vies. Il va balayer tout ce qui était de la vie passée, de tout ce que l'ennemi a pu faire dans nos vies, pour nous ramener à sa réalité. Mais sans Dieu, vous regardez un enfant et vous voyez déjà qui il va devenir à cause des situations qu'il a vécues dans son enfance. Ou bien ou mal. Mais gloire à Dieu, parce que Dieu transforme. Donc ne restez pas sur des pensées en vous disant ben, « c'est fichu ». Ma vie est fichue. J'ai vécu tel et tel événement dans ma vie, donc c'est fichu. Non, c'est pas vrai ça. C'est un mensonge du diable. C'est jamais fichu avec Dieu. Jamais. Je vais lire 2 Samuel 9 pour vous donner un exemple. David dit « Reste-t-il encore quelques-uns de la maison de Saül ?» pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Pour ceux qui ne le savent pas, Jonathan et Saül étaient très amis. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Mephibosheth ?» Et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort, tel que moi. » Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. » À votre avis, pourquoi Mephibosheth se voit comme un chien ? En fait, si on relit dans la parole, avant, en fait, quand il avait 5 ans, on est venu dire que son père, Jonathan, et son grand-père, Saül, étaient morts au combat. Et la servante a pris peur. Rapidement, elle a pris l'enfant, et en le prenant et en courant, elle a fait tomber l'enfant, qui a été perclus des pieds. Donc, il était boiteux. Est-ce que dans ta vie, la peur ne t'a pas amené à ce genre de situation ? Alors peut-être que tu n'es pas perclus des pieds, mais est-ce que dans ta vie, il n'y a pas eu des choses qui t'ont marqué et qui ont fait que tu ne vis pas ce que Dieu voudrait que tu vives ? En fait, nous voyons que la peur engendre souvent des problèmes. Avant cela, en 1 Samuel 18:3, nous voyons que Jonathan et David font un pacte d'amitié. Certaines traductions disent une alliance. Et là, nous voyons David honorer son amitié, son alliance avec Jonathan, sa fidélité envers la famille de Jonathan. Nous voyons dans ce passage Dieu, au travers de David, redonner l'identité à Mephibosheth. Tu peux passer. Donc, vous êtes d'accord, l'identité de Mephibosheth, elle n'était pas du tout celle que Dieu avait établie à la base. Est-ce qu'il n'a pas besoin d'être reconfiguré ? Parce qu'en fait, Mephibosheth en hébreu veut dire exterminant la honte, les idoles. Méphibosheth n'était pas du tout dans cette réalité, mais pas du tout. Mais nous voyons que là, Dieu, au travers de David, redonne à Méphibosheth qui il est. Et ce que Dieu a fait pour Méphibosheth, il veut le faire pour toi. Il veut le faire pour toi. Dieu veut te redonner ton identité, la première. Il t'a créé à son image. C'est celle-là des identités que Dieu a pour toi. Ce n'est pas une autre. Il n'y a qu'un Jean-François sur cette terre. Il n'y en aura pas deux. Il n'y a qu'une Marie-Alice sur cette terre. Il n'y en aura pas deux. Alors, je ne connais pas le prénom de tout le monde, mais dites-le pour vous. Il n'y a que... Et vous dites votre prénom sur moi, sur cette terre. Dieu t'aime et il t'a créé unique. Il n'y en a jamais eu avant toi et il n'y en aura jamais plus après toi. Et nous, en tant que chrétiens, on galère parfois parce qu'en fait, on n'est pas dans cette réalité de cette identité. Oui, mais... Est-ce que vous êtes prêt à laisser Dieu vous reconfigurer, c'est-à-dire à vous ramener à cette réalité de comme il vous a créé à la base, à l'image de Dieu. Et comme il vous voit aujourd'hui, comme ce parent qui ouvre la porte de la chambre et qui voit l'enfant dans le berceau et qui se tait parce qu'il l'aime. Est-ce que vous pouvez juste fermer les yeux et penser à ça? Vous dire, mais Seigneur, peut-être je ne comprends pas, parce que je suis limité, je ne comprends pas comment tu m'aimes. Mais je veux accepter maintenant que tu me remplisses de ton amour. Que tu me remplisses de l'identité que tu avais prévue pour moi à la base. Je veux pouvoir vivre cette réalité. Alors pardon Seigneur, peut-être parce que je ne pense pas que ce soit possible, ou je ne pense pas que c'est pour moi. Je te demande pardon et je te demande de faire cette œuvre en moi. Viens me remplir de ton amour. Viens me remplir de ta présence. Vous imaginez que Méphibosheth, il a dit au verset 7, non, pardon, au verset 8. Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort? Imaginez l'identité qu'il avait. Il ne se voyait même pas comme un être humain. Et de plus, il était mort. Si tu as cette impression de ne pas avoir du prix aux yeux de Dieu, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tu as beaucoup de prix aux yeux de Dieu. Oui, mais regarde dans ma famille, tu as beaucoup de prix aux yeux de Dieu. Et si tu ne le crois pas, commence déjà à le dire. Parce que tu vas reconfigurer qui tu es. J'ai du prix aux yeux de Dieu. J'ai du prix aux yeux de Dieu. Et si tu as besoin de prendre ça comme un médicament, matin, midi et soir, fais-le. J'ai du prix aux yeux de Dieu. Je suis le fils ou la fille bien-aimée de Dieu. Telle est mon identité. Dieu t'aime. Tu as du prix à ses yeux. Ne laisse pas ces pensées venir te dire l'inverse. Dieu t'aime. Ésaïe 53,5 dit « Car c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Tu ne peux pas entrer dans la guérison si à un moment donné tu n'as pas fait l'état de ta vie. Et il y a des gens qui ont toujours un visage très souriant. Et derrière ce visage, ce sont des gens qui souffrent tellement. Alors, je ne dis pas que quelqu'un qui est très souriant, il souffre. Hein. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Hein. Mais il y a des gens, parfois, qui sont comme ça. Quand vous les voyez, vous dites, oh, il est toujours joyeux ou elle est toujours joyeuse. Et en fait, ce sont des gens qui souffrent profondément et qui ont besoin de la guérison de Dieu et qui ont besoin de la compréhension de qui ils sont en Christ. En Dieu. Pas la personne que Dieu va essayer de transformer pour que peut-être. Non. Dieu t'a créé à son image et il te ramène là. C'est son désir. C'est ça qu'il veut faire. Je vais demander à Pauline si elle peut revenir pour un. Et si vous pouvez juste fermer les yeux et recevoir ce que Dieu veut vous donner durant ce temps, et après pouvoir adorer Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Ton identité, elle est définie par Dieu. Refuse toute identité que l'on te donne si elle n'est pas celle que Dieu a prévue pour toi. Ton identité est définie par Dieu. Si tu ne veux pas d'identité que Dieu a préparée pour toi, tu n'entreras jamais dans le fait d'avoir la paix. Dans Dieu sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Alors reçois ce que Dieu veut te donner. Et quand tu reçois ce que Dieu veut te donner, alors tu peux louer Dieu de tout ton cœur. Pas parce que tu n'as pas le sentiment, mais juste parce que tu dis « Seigneur, je te fais confiance. Ce que tu dis sur moi, c'est vrai et je l'accepte. »